Bénédicte Fly-Sainte-Marie, bonjour. Comment vous est venue l'idée de retracer la vie et carrière de Camille Urso?
Cette biographie sur Camille Urso est née d'un autre ouvrage. Ça devait être dans le courant de l'année 2019. Je me suis plongée dans le livre Gabriel Dan et Claire Berest. Il y a une biographie qu'elle consacrait à leurs arrière-grands-parents, le peintre Francis Picabia et sa compagne Gabrielle. Et au détour de quelques lignes, Anne-Claire Berest mentionnait Camille, évoquait sa position de pionnière du violon en France. Et comme je ne connaissais pas Camille, j'ai eu envie d'en savoir plus. Je suis allée fureter, j'ai enquêté. Et de fil en aiguille, je me suis dit que ça ferait un très bon livre et une superbe trajectoire à dépeindre.
Néanmoins, certains documents, correspondances, n'ont jamais vu le jour.
Non, effectivement, après le décès de Camille en 1902, avant ses 62 ans, son mari, qui lui a voué toute sa vie, avait envisagé d'écrire une biographie à son propos. Il y avait également un écrivain qui lui avait déjà consacré une biographie de son vivant, qui a entrepris la même démarche, mais ni l'une ni l'autre de ces entreprises c'est finalement conclu sur un livre en bonne et due forme.
Qu'est-ce qui rend le parcours de cette femme violoniste, née le 13 juin 1840 à Nantes, décédée le 20 janvier 1902 à New York, digne d'intérêt?
Alors, il y a deux choses concernant Camille. Je pense que c'est son talent hors norme qui s'est imposé aux yeux et aux oreilles des gens très rapidement, dès son premier concert à 8 ans. Et je pense que l'autre ligne forte de l'existence de Camille, c'est son audace, son courage et sa force qui a fait qu'elle a vaincu tous les préjugés, tous les dictats de l'époque en jouant du violon, en réussissant à obtenir de ses parents de jouer du violon quand elle était petite, en entrant au conservatoire qui n'avait accueilli que deux femmes avant elle en 60 ans depuis sa création, en continuant à jouer du violon une fois mariée.
On va y revenir, bien sûr. On va regarder sa carrière plus dans le détail. Cet enfant prodige a-t-elle innocemment brisé le plafond de verre dans l'univers instrumental?
Au départ, oui, je pense que son talent, cette virtuosité que tout le monde lui reconnaissait, on fait effectivement qu'elle a dépassé, franchi des obstacles sans s'en rendre compte. Et je pense que le fait de conscientiser les difficultés des femmes musiciennes est venu plus tard, beaucoup plus tard.
Alors, on peut taire le rôle éminent qu'ont joué à ses côtés plusieurs hommes influents, et en premier lieu, Salvatore Urso, son père.
Oui, certainement, avec sa mère Émilie, celui qui a semé les germes de sa vocation musicale, parce qu'il était flûtiste à l'orchestre, dans l'orchestre du Théâtre Gralin à Nantes. Il jouait également de l'orgue, et il s'est mué au fur et à mesure que la carrière de Camille prenait de l'envergure, et s'est mué en son impresario, en fait. Voilà, donc c'était le premier homme de la vie de Camille, et non le moins important.
Ce solide soutien paternel n'a pas été sans sacrifice.
Mais non, parce qu'il a effectivement, il a laissé de côté sa propre carrière pour épauler, pousser celle de sa fille. Donc, il s'est dit qu'il fallait mettre en exergue peut-être le plus doué des deux.
Alors, Camille Urso, devenue Camilla, qui s'est mariée, a eu des enfants, a été une grande voyageuse.
Oui, n'oublions pas de dire d'abord que si elle a pris le prénom de Camilla, c'est qu'elle a traversé l'Atlantique et démarré une longue carrière fructueuse aux États-Unis. Et effectivement, après un cursus fait au Conservatoire de Paris et des premiers concerts en Europe qui ont été déjà très bien accueillis, elle est devenue, on peut dire, une icône aux États-Unis, particulièrement dans la décennie 1870-1870, dans les décennies 1870-1870-1880, où là, c'était, on peut même la qualifier de phénomène, en fait.
Alors, au-delà du caractère phénomène, c'est à vous en croire aux États-Unis qu'elle va obtenir la consécration, mais c'est aussi aux États-Unis qu'elle va se montrer féministe.
Oui, plus dans ses actes que dans ses paroles et ses engagements, c'est quelque chose qui va poindre petit à petit au fur et à mesure de son parcours. Parce que l'exemple de Camille et de quelques autres musiciennes de son temps, comme Wilma Neruda, a fait que petit à petit, aux États-Unis, les conservatoires, les académies, les écoles de musique ont toutes ouvertes leurs portes aux filles dans les sections cordes, qui n'était pas le cas auparavant, mais au fil de sa carrière, de sa vie, Camille a réalisé que ses filles, ses femmes, elles étaient formées à cet instrument, mais elles n'étaient pas embauchées dans les orchestres. Donc elle a souligné le fait dans les diverses interviews qu'elle donnait, et elle a fait un très long discours, très éloquent, très moderne, dans le cadre de l'exposition universelle à Chicago en 1893, où elle soulignait la nécessité justement que les femmes soient recrutées dans les orchestres et qu'on arrive petit à petit à l'égalité salariale.
Alors, à Boston, on lit qu'elle a créé une école de formation destinée aux filles. Vous faites état également de cette opération grande ampleur avec Women's String Orchestra, mais sa volonté de permettre à toutes et tous d'approcher l'univers musical classique est également à mettre à son crédit.
Oui, il y a une vraie volonté de transmission chez Camille qu'elle a mise en pratique par divers biais. Donc même quand elle était au zénith de sa carrière, elle a toujours donné des cours particuliers à des jeunes artistes. Ensuite, elle a accepté d'être professeure au jeune conservatoire de New York en 1890. Et elle a accepté d'être la présidente d'honneur d'un orchestre 100% féminin à la fin de sa vie. Elle a toujours cette notion, effectivement. Je veux pouvoir léguer aux générations suivantes l'héritage dont je suis détentrice.
Elle a eu maille à partir parce que son état de santé l'a obligée à décrocher à deux reprises.
Oui, bon, dans les années 1860, elle avait accumulé trop de concerts, trop d'obligations, trop de voyages, et effectivement, son corps l'a abandonné, mais c'était pour reprendre de plus belle, et elle a eu ensuite, beaucoup plus tard, elle a eu un accident à New York. Elle a été fauchée par un cycliste, mais ce qui lui a permis de préparer ce fameux discours donné à Chicago en 1893, ce plaidoyer pour les femmes musiciennes. Donc c'était un bien pour un mal.
Comment expliquer que ce soit en Australie que son image se soit assombrie?
Je pense que ça n'avait... Bon, déjà, ce que vous avez dû voir dans le livre, c'est que le public océanien était particulièrement redoutable.
Elle a bénéficié d'une presse dithyrambique
au départ, effectivement, il y a eu un mouvement de va-et-vient au début, quand elle arrive à la toute fin des années 1880, quand elle arrive en Océanie, notamment en Nouvelle-Zélande, la presse est un peu sceptique. Ensuite, elle emporte le morceau, c'est le cas de le dire pour Camille, et Zélande, voilà. Et ensuite, quand elle revient 15 ans plus tard, elle cale toujours. Là, oui, c'est un peu le début de la fin, toi en partie. C'est plutôt l'appétit des gens en train de tourner.
Alors, quand le vent tourne, Bénédicte Agnan, au crépuscule de sa vie, du répertoire classique qui lui valait d'être...
Je ne crois pas, parce que je crois que Camille, pour la musique classique, et comme on était dans le contexte d'une Camille, elle était très intuitive, elle a senti ce désamour progressif à elle aussi, parce que en avançant en âge, voilà, et elle s'est dit comment je peux continuer à exercer mon art. Et donc effectivement, elle a accepté d'intégrer le circuit du vaudeville, qui était une sorte de divertissement multi-horizon, où il y avait des artistes de tout genre, voilà, des équilibristes.
Bénédicte Fly Sainte-Marie, merci pour votre livre qui fait entendre le son du violon de Camille Urso, ponctué d'un tempo féministe. Votre récit abondamment documenté éclaire le parcours peu connu d'une gamine au teint de porcelaine qui, à travers son talent de musicienne, a défendu les droits des femmes et la parité avec les hommes dans l'univers musical, qui ne peut faillir à sa réputation d'adoucir les mœurs
mais il y aura encore des générations de musiciennes sacrifiées. Aussi ai-je choisi, en point d'orgue, de montrer et faire entendre une jeune violoniste ukrainienne.
Merci Patrick.